Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
L'actualité court, à chaque jour ses drames et ses conflits, de quoi avoir l'impression de vivre dans un TGV et d'en perdre un peu la tête et le nord. Alors pour nous aider, cette émission Le Grand Débat, avec quelques sages, du moins on l'espère, qui se succèdent, pour nous donner des clés de compréhension de la marche du monde et retrouver l'espérance, pourquoi pas. Au programme aujourd'hui, les attaques chimiques supposées en Chine, les frappes occidentales, la marche du retour en Palestine, la question du retour de l'antisémitisme en France et le discours d'Emmanuel Macron aux catholiques de France. Le grand débat de Vivante Église, c'est donc le thème de cette émission de ce matin, le grand rendez-vous, ou presque, donc de cette émission. Autour du plateau, Daniel Cabanis, professeur de droit émérite à l'Université Toulousain, Capitole, chroniqueuse géopolitique à Radio Présence. Bonjour Daniel.
Bonjour Emmanuel, bonjour tout le monde.
Bonjour.
Voilà, on vous entend pas très bien. Ce que je propose, c'est qu'on va vous rappeler tout de suite pour être sûr d'avoir une bonne connexion téléphonique. Alain Cérizola, diacre, ancien président du Secours catholique Ariège-Garonne et délégué diocésain pour le diocèse de Toulouse à la Solidarité. Bonjour.
Bonjour Emmanuel, bonjour
et,
à tous.
Et Bernard Ribal, président des Semaines sociales de Toulouse et conseiller spécial du président de la CFTC. Bonjour.
Bonjour.
On commence donc avec la Syrie, comme annoncé au début de l'émission. Le 7 avril dernier aurait eu lieu dans une attaque chimique en provenance de la ville de Douma, enfin dans la ville de Douma, je vais y arriver. Et le 13 et 14 avril, une réponse des forces occidentales, en tout cas de la France, des États-Unis et du Royaume-Uni, qui ont bombardé un certain nombre de sites stratégiques supposés fabrication d'armes chimiques. Alors beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Je résume ça extrêmement rapidement. Voilà, c'est une décision qui a été largement débattue, en partie en France, même en Grande-Bretagne. Les Russes ont considéré que cette intervention était illégitime. La tension semble importante. Qu'est-ce que vous diriez? On va commencer avec vous, Bernard Ribal, sur ce sujet.
Ah, moi, je pense que l'utilisation des armes chimiques, je ne suis pas le seul, hein, c'est unanime, et tout à fait condamnable, gravement condamnable, parce que c'est une arme qui... non seulement détruit, comme toutes les autres, mais qui, en plus, est très impressionnante par son caractère gazeux, chimique, et c'est extrêmement terrorisant, quoi. Depuis le temps qu'on menaçait de punition la Syrie, si elle continuait à utiliser des armes chimiques, il fallait bien un jour, pour la crédibilité de nos paroles, qu'on puisse passer à l'acte, et c'est ce qui a eu lieu, quoi.
Alors, il y a quand même une première question qui a été posée sur la réalité de ces attaques chimiques. Qui croire a été reproché aux États-Unis, à la France et au Royaume-Uni d'être intervenu avant qu'arrive sur place l'organisation en charge, missionnée par l'ONU, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, de vérifier la réalité de cette attaque chimique. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat ?
Je pense qu'au-delà d'un certain nombre de jours, je ne suis pas grand spécialiste, mais c'est plus la peine d'envoyer des experts, hein, parce qu'il n'y a plus de traces. Hein. En plus, on dit qu'on est intervenu en dehors d'un feu vert de l'ONU, ce qui est en partie vrai, hein. Mais en même temps, il y avait un accord dont la Russie était signataire, d'interdiction sous peine de sanction, d'interdiction des armes chimiques faites à la Syrie, quoi.
Daniel Cabanis, sur ce sujet, je pense que vous nous avez rejoint, en tout cas on me fait signe que oui. Est-ce que vous croyez à cette attaque chimique? Voilà, la France a avancé un certain nombre d'arguments, a même publié une évaluation nationale sur ce sujet, et les Russes disent qu'il y a une absence de preuves formelles. Qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet?
Alors, d'après les éléments qu'on a obtenu, les images qu'on a pu voir, il semble que l'attaque chimique soit une vérité. Cela étant un tout petit bémol, une toute petite précaution, dans ce type de guerres qui sont d'abord des guerres civiles, mais avec des enjeux internationaux, les manipulations sont fréquentes. Et il n'est pas toujours très facile de dater exactement les photos que l'on voit. Donc, il peut y avoir eu un peu de mise en scène destinée à obtenir certaines réactions. Mais tel qu'on connaît connaît Bachar el-Assad et les Russes, la vraisemblance de l'horreur est malheureusement très très prégnante.
Alors moi j'avoue qu'il y a, j'ai trouvé une interview qui m'a troublé, enfin deux réactions. La première c'est Marc Fromager, qui est le président pour la France de l'aide à l'Église en détresse, qui a l'air d'émettre des doutes sur la réalité de cette attaque chimique, et qui dit même que celle de 2013 n'aurait jamais été prouvée. Et l'autre remarque, c'est une déclaration conjointe des patriarches Jean X, patriarche grec orthodoxe d'Antioche, et de tout l'Orient, d'Ignace Afrem II, patriarche syrio-orthodoxe, et d'un autre grec melkite catholique qui s'indigne de l'intervention, donc qui sont des patriarches locaux, hein, et qui s'indigne de l'intervention de la France, de la Grande-Bretagne et des États-Unis, et qui remettent même en cause donc la réalité de cette attaque chimique. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux, Daniel Cabanis, de ces deux, voilà, de ces deux informations que je viens de communiquer ?
Bah, elles sont effectivement la base d'une réflexion, parce que les églises d'Orient, de Syrie en particulier, ont toujours bénéficié de la protection des Assad, et oui. Les relations sont plutôt bonnes. Et j'ajouterais à ces déclarations de personnes qui ne disent pas n'importe quoi, l'attitude de certains de mes étudiants qui étaient des musulmans et qui tous m'ont toujours dit « Mais madame, ne croyez pas tout ce qu'on raconte sur le mal que ferait Bachar el-Assad ou qu'aurait fait avant lui son père. S'il n'avait pas été là, il n'y aurait plus de chrétiens en Syrie. » Donc, à nuancer, ça n'est peut-être pas uniquement un monstre. Il est possible qu'il y ait de la manipulation. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On a tendance à croire que non, parce qu'il y a d'autres éléments où on le voit se comporter de manière plutôt brutale avec la bénédiction, si ce n'est le soutien des Russes. Mais peut-être qu'une remise en cause, ou en tout cas une analyse approfondie, serait nécessaire avant de trancher absolument.
Voilà, je cite aussi un extrait de cette déclaration, ce n'est pas pour lui donner plus de crédit qu'il ne faudrait, hein, mais parce qu'elle m'a surprise. Nous appelons toutes les églises des pays qui ont participé aux frappes à remplir leurs devoirs chrétiens selon les enseignements de l'Évangile et à condamner cette agression et à appeler leur gouvernement à s'engager dans la protection de la paix internationale. Alain Cirisola.
Oui, c'est certain que les attaques chimiques n'ont pas été formellement prouvées, mais on peut quand même penser que si les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne se sont engagés, c'est qu'ils ont des preuves suffisantes. Moi, j'ai envie de dire, bon, d'abord, c'est une évidence que le problème de la Syrie est un problème éminemment complexe, éminemment complexe qui dépasse largement la Syrie. Mais moi, je citerai le pape François qui dit « Rien ne peut justifier l'usage d'armes chimiques d'extermination contre des personnes et des populations sans défense ». C'est sûr que c'est toujours difficile de s'engager dans un acte de guerre, c'est toujours une décision difficile, mais je pense qu'il était nécessaire de réagir, parce que la Syrie, comme l'a dit Bernard Ribal, qui a signé les accords de non-utilisation d'armes chimiques, il fallait réagir. Il fallait réagir, même si, je dirais, cette intervention est relativement symbolique, puisque toutes les précautions ont été prises pour qu'il n'y ait pas de mort, militaire ou civile. C'est tout à fait important. Alors, cette décision, ces bombardements, certes, ne règlent pas tous les problèmes, mais je pense qu'il fallait taper sur la table et dire à Bachar el-Assad que ça suffit de bombarder avec des armes chimiques, même avec d'autres armes d'ailleurs, les populations civiles. Quant à la décision de l'ONU, c'est sûr qu'il n'y a pas eu de décision de l'ONU, mais le Conseil de sécurité est complètement verrouillé par la Russie qui met systématiquement son droit de veto, et cela pose quand même une question sur le fonctionnement de l'ONU et cette unanimité nécessaire à toute intervention. Voilà.
Daniel Cabanis, qu'est-ce que vous diriez ? Est-ce que, quelles sont les raisons de l'intervention de la France ? Enfin, elles ont été explicitées, hein, mais je veux dire par là que on a entendu dire aussi que seuls deux sites de la région de Homs avaient été attaqués. Donc, de vue de loin, on se dit mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas détruit dans ces cas-là tous les sites ? Et puis, on a laissé entendre que la France, qui avait été, on va dire, sortie du jeu localement, c'était aussi une occasion pour elle de reprendre pied. Alors, qu'est-ce que vous diriez sur ces réserves et remarques ?
Bon, mais d'abord, première remarque, la remise au centre des affaires, il est possible, ça fait partie d'une démarche globale du président Macron de vouloir redonner à la France une place internationale. C'était peut-être une opportunité, mais je ne pense pas que ça suffirait comme argument. Je n'ose pas imaginer que nos dirigeants se soient lancés là-dedans sans avoir des certitudes. Peut-être qu'elles pourraient s'avérer infondées, mais on n'imagine pas qu'ils aient lancé leur bombardement sur foi de d'ouï dire ou de raconter. Cela étant, pour les plus âgés d'entre nous, si on se rappelle ce qui s'était passé en Roumanie au tout début de la révolte contre Ceausescu, la manipulation avait été totale, les fameux morts de Timișoara n'étaient que des décédés de morts tout à fait naturelles. Donc, à prendre avec précaution, parce que maintenant, dans la mesure où tout est spectacle et communication, le pire est à craindre.
Bernard Libal, vous avez une dernière remarque, ou est-ce qu'on part à la Palestine?
Non, mais très vite, le président Hollande, le président précédent, avait décidé des frappes aussi après l'utilisation d'armes chimiques par Bachar el-Assad.
2013, oui.
Et il comptait sur le soutien de Barack Obama, qui lui avait de prime abord donné son soutien.
Et qu'il a lâché au dernier moment.
Et qu'il a lâché au dernier moment. Donc on pouvait pas continuer tout le temps à dire attention, on va vous taper dessus, et sans jamais rien faire, quoi. C'était pas possible.
Autre sujet d'actualité, probablement qu'un certain nombre de personnes n'en ont pas entendu parler. Je l'ai choisi à dessein parce que on finit par peu parler de la Palestine, tellement les projecteurs sont sur la Syrie, et évidemment on comprend pourquoi. C'est une marche du retour. Le marche du retour, c'est le nom qui a été donné à une marche initiée depuis le 30 mars par les Palestiniens dans la bande de Gaza, qui veulent signifier par là leur intention un jour de revenir chez eux. J'ai cru même comprendre qu'il y avait un certain nombre de Gazaouis, puisque c'est comme ça je crois qu'on les appelle, oui, qui ont gardé les clés de leur maison en espérant un jour revenir. Et ce, à l'occasion de deux anniversaires, de tristes anniversaires, une journée de la Terre qui est commémorée chaque 30 septembre et qui perpétue le souvenir de la violente répression de manifestations anti-expropriation en Israël en 1976. Et puis, cette manifestation devrait durer jusqu'au 15 mai, enfin cette grande marche, qui est pour eux le jour de la Nakba, la catastrophe, où leur a été retiré le droit d'être dans cette terre. Donc la répression israélienne ne s'est pas fait attendre. Manifestation dite pacifique aux frontières donc de cette bande de Gaza, et on compte déjà plus d'une cinquantaine de morts, puisque les forces israéliennes ont parfois tiré dans la foule à balles réelles. Daniel Cabanis, vous qui êtes la chronique géopolitique de Radio Présence, coup de zoom sur la Palestine, qu'est-ce que vous diriez pour commencer, pour ouvrir le bal sur ce sujet?
Ouvrir le bal, je ne sais pas si c'est le meilleur mot, mais il est vrai qu'il y a une forme d'exaspération énorme du côté des Palestiniens, dans la mesure où l'État d'Israël continue ses processus de colonisation d'une part, et que d'autre part, les habitants qui sont confinés dans Gaza vivent une situation sociale et économique, je ne parle même pas de la question politique, de plus en plus difficile. Les plantations irriguées du côté israélien ont pour conséquence que les nappes phréatiques de la zone de Gaza sont de plus en plus contaminées par le sel en provenance de la mer Morte, ce qui veut dire que l'eau n'est pas potable. On ne dépend donc que d'eau mise en bouteille, ce qui coûte cher. Et d'autre part, le sentiment d'être dépouillé de manière injuste de ses propres biens, indépendamment de la question de souveraineté territoriale d'un État, mais au moins à titre privé, très nombreux et de plus en plus nombreux sont les Palestiniens qui ne supportent plus cette expropriation faussée qui est associée à une revendication territoriale.
On parle à propos de la bande de Gaza de prison à ciel ouvert. Je redonne juste quelques chiffres. C'est 45 km de long sur 8 km de large, 2 millions de personnes, dont 1,3 million de réfugiés, et 43% de la population qui a moins de 15 ans. Sans compter le taux de chômage, 60% de la population vit de l'aide humanitaire, et taux de chômage plus de 40%. Alain Cérisola.
Oui, moi je... Je suis choqué de la réaction israélienne. On peut comprendre ces Gazaouis qui sont, vous venez de le dire Emmanuel, qui sont parqués dans une bande de terre. Il y a 2 millions de personnes qui sont parquées, qui vivent dans la pauvreté, qui vivent dans le chômage, comme l'a dit Daniel Cavanis, qui vivent sans eau, parce que je crois que le chiffre de 96% de l'eau n'est pas consommable. Bon, je suis choqué de la réaction, de la violence de la réaction des Israéliens qui n'ont pas hésité à tirer à balles réelles sur des hommes, des femmes et des enfants qui manifestent pacifiquement pour un droit, c'est le retour sur leur terre. Et la réaction israélienne est en violation avec le droit international. On parlait tout à l'heure de la Syrie et de la violation du droit international. Là aussi, il y a violation du droit international.
Où est la violation là, du droit international?
Parce que c'est l'armée qui réagit avec des armes pour tuer des civils qui manifestent pacifiquement. C'est contre les codes internationaux. Alors, ce qu'il y a de difficile dans cette affaire-là, c'est que les Gazaouis manifestent, Israël a une position radicale, mais qui est en plus soutenue par les États-Unis. Moi, je pense que la décision du président Trump de rapatrier l'ambassade d'Israël à Jérusalem continue à mettre de l'huile sur le feu et à encourager les Israéliens à avoir cette politique répressive et terrible vis-à-vis de ces personnes, encore une fois, qui sont parqués dans une bande de terre, qui ne peuvent pas vivre librement. Et leur revendication pour la levée du blocus et le retour sur leur terre me semble tout à fait légitime.
Alors, j'ajoute, avant de vous donner la parole, Bernard Ibal, quelques informations, un autre éclairage. J'ai trouvé ça dans le journal Causeur, donc journal réputé, on va dire, intellectuel plutôt réactionnaire, souligne que la bande de Gaza est aujourd'hui tenue par le Hamas.
Ouais.
Que les relations ne sont pas particulièrement bonnes aussi avec le président de l'autorité palestinienne, donc Mahmoud Abbas, qu'il pouvait y avoir aussi des risques d'infiltration en Israël, d'affrontements, d'installation de bombes cachées le long de la frontière israélienne. Bref, que les Gazaouis, s'ils sont, on va dire, parqués, ne seraient pas non plus toujours des enfants de cœur. Qu'est-ce que vous dites de cela ?
Ben, c'est un peu comme le sujet précédent, la Syrie. Il y a plusieurs guerres. Il y a plusieurs guerres qui s'entrecroisent avec des coalitions différentes selon les moments et selon les circonstances. L'une des guerres, elle est connue, c'est israélo-palestinienne. Bon, on vient d'en parler. Mais, comme vous l'avez évoqué, il y a le Fatah qui contrôle la Palestine cisjordanienne et le Hamas qui contrôle la bande de Gaza. Finalement, il y a deux Palestines. Parce qu'ils se font la guerre entre eux. C'est une véritable guerre civile avec des morts entre le Hamas et le Fatah. Il y a eu même des violences extrêmes en 2007, mais ça continue de façon sporadique. Le Hamas ne reconnaît pas la possibilité à Israël d'avoir un État. Alors, on peut comprendre des réactions israéliennes. Le Fatah aurait tendance, avec négociation, à reconnaître un État d'Israël si on reconnaissait un État palestinien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aucun État n'est finalement reconnu. Hein. Parce que la Palestine, il n'y a jamais eu un traité, même pas en 1948, définissant des frontières territoriales d'État. Il y a eu des limites d'habitat. 1948, elle définit des limites d'habitat pour Arabes, limites d'habitat pour les Juifs, avec une véritable balkanisation. Il y avait des trous partout, tel village arabe, tel autre village juif. Mais il n'y a jamais eu de frontières réelles, parce que la Palestine n'est pas reconnue comme un État.
Non.
Israël n'est pas reconnu non plus comme un État par tout le monde. Quoi.
Donc quand le Saint-Siège reconnaît l'État israélien comme l'État palestinien, ils reconnaissent quoi en fait dans ces cas-là c'est...
Alors, officiellement, le président... Et officiellement, mais il s'est contesté ça. C'est le Fatah qui a la présidence. Et le Premier ministre, lui, il est, parce qu'il a gagné les élections, il est du Hamas. Mais tout ça, en fait, c'est de la vitrine. Plus personne ne commande personne. Et on est dans une situation catastrophique. D'autant qu'il y a un autre conflit qui est en train d'apparaître sur la même terre, c'est entre sunnites et chiites. Jusqu'à présent, ils n'étaient pas arrivés, mais ils arrivent. Et ils pénètrent à la fois le Hamas et le Fatah. Et l'un et l'autre, les sunnites comme les chiites. Et ça crée un troisième conflit. Alors ça fait beaucoup de circonstances explosives. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu un usage abusif de la force. Je ne veux pas abuser du temps pour dire la même chose que vous.
Daniel Cabanis, peut-être un dernier mot. Est-ce que ça ne devient pas un peu un conflit oublié? En tout cas, je sais que ceux qui sont sensibles à la cause palestinienne, parfois, s'en plaignent.
C'est effectivement le sentiment qui peut surgir parce que on condamne par-ci par-là telle attitude, tel comportement, des bombes du côté du Hamas, que ce soit à Gaza ou que ce soit au Liban. On condamne tel ou tel processus de colonisation du côté d'Israël, mais personne n'empoigne, si j'ose dire, courageusement la situation. Il faut dire que c'est un point de fixation conflictuel qui peut-être arrange un certain nombre d'acteurs internationaux.
Voilà, je citerai pour finir une déclaration du président Abbas qui aurait redit récemment, je crois que c'était le 30 avril si je ne me trompe pas, son engagement en faveur d'une solution à deux États, pour lui, pour le coup. On va faire une pause et puis on vous retrouve après pour parler de l'actualité française. Donc une tribune parue dans Le Parisien qui pose la question de l'antisémitisme, du retour d'un violent antisémitisme en France et qui désigne du doigt en partie les musulmans, en tout cas certains musulmans de France. Et puis évidemment le discours d'Emmanuel Macron aux Bernardins devant la conférence d'évêques de France et plus largement à l'adresse des catholiques.
Quantis amor, quantum dicis, quantis sono. Quantis amor, quantis labor, quantum dicis, quantis sono, quantis sono.
Le grand débat, c'est donc l'émission de ce jour, émission d'actualité, avec autour du plateau Alain Cerisola, diacre, ancien président du Secours catholique Ariège-Garonne, délégué diocésain pour le diocèse de Toulouse à la Solidarité, Bernard Ribal, président des Semaines Sociales de Toulouse et conseiller spécial du président national de la CFTC, et nous a quitté Daniel Cabanis, entre autres chroniqueur géopolitique à Radio Présence, qui avait des impératifs. On va parler de l'actualité française maintenant, et on va parler d'un manifeste qui a fait grand bruit. Une tribune parue dans le journal Le Parisien, signé par 250 personnes, dont un président de la République, trois anciens premiers ministres, l'ancien maire de Paris Bertrand Delanoë,
ancien président de la République,
et un certain nombre de figures intellectuelles. Tout cela conduit par Philippe Val, ancien directeur de Charlie Hebdo, qui, alors je citerai certains passages, disent entre autres que notre pays, la France, est devenu le théâtre d'un antisémitisme meurtrier. Il y a des mots très forts dans cette tribune, parlant de terreur, posant la question du silence en France, et j'ai aussi relevé ce terme de faillite démocratique. C'est une tribune qui est parue, je ne retrouve plus la date, mais ça va me revenir, qui est en tout cas parue conjointement avec la publication d'un livre à paraître aux éditions Albin Michel, intitulé « Le nouvel antisémitisme en France ». Je donne juste deux chiffres que cite cette tribune et puis après j'arrête de parler. Les juifs français auraient 25 fois plus de risques d'être agressés que leurs concitoyens musulmans, dit la tribune, et 10% des citoyens juifs d'Île-de-France, c'est-à-dire environ 50 000 personnes, auraient récemment été contraints de déménager. Bernard Ibal, cette tribune vous a-t-elle surprise ?
Non, hélas. Ne m'a pas surprise, non. Il y a des faits très très inquiétants, quoi. Que des personnes, en l'occurrence des juifs, soient obligées de déménager parce qu'ils sont insultés, bousculés par leur environnement, que les enfants ne puissent plus aller à l'école de la République, très inquiétant aussi. La marche qui a été organisée pour protester en quelque sorte contre l'antisémitisme et pour commémorer l'assassinat de Mireille Knoll.
Donc Mireille Knoll qui a été assassinée récemment, et ça fait partie, on va dire, des meurtres antisémites qui ont profondément
c'est le dernier. C'était pas le premier. Et je suis un peu inquiet de cette manifestation parce qu'il n'y avait pas énormément de monde, il y en avait quand même, mais c'était toujours surtout des élus, des hommes politiques et une population juive. Il n'y avait pas tellement de Français autres que juifs. La mobilisation, la prise de conscience du danger et de la réalité antisémite ne se fait pas rapidement. Alors effectivement, pour l'essentiel, mais pas uniquement, ça vient d'un islam plus ou moins radical. Je dis bien plus ou moins radical, parce qu'il n'y a pas que les djihadistes. Hein. Là, c'est plus important en population que les djihadistes.
Alors justement, est-ce que vous pouvez nommer les différentes sources de cet antisémitisme ? Parce que cette tribune cite plusieurs. Il y a le vieil antisémitisme d'extrême droite, dit cette tribune, s'ajoute l'antisémitisme d'une partie de la gauche radicale, qui a trouvé dans l'antisionisme l'alibi pour transformer les bourreaux des juifs en victimes de la société. Et désigné l'islam, hein, et pas seulement le... Puisqu'il demande même que l'islam soit expurgé d'un certain nombre de versets du Coran.
Il y a des choses extrêmement graves, d'ailleurs, dans les autres sources d'antisémitisme, autres que l'islam radical. Je voudrais faire allusion à un livre de Bernard-Henri Lévy, là, qui vient de sortir. Ça s'appelle « Les quatre royaumes de l'enfer », un truc comme ça. Dans ce livre, il parle de l'Iran, entre autres, longuement. Et il montre que le mot « Iran » signifie « Arien » et que c'est fait exprès. Et que normalement, le pays devrait s'appeler la Perse. Et que l'Iran cultive les croix gammées et se prend officiellement dans les discours d'Ayatollah pour la race élue et la race supérieure. Donc, on retrouve une coalition entre l'ancien antisémitisme nazi et le nouvel antisémitisme qui serait islamique. En fait, il y a un croisement au niveau de l'Iran.
Alors peut-être juste avant qu'on parle davantage de l'antisémitisme islamique, qu'est-ce que vous diriez des deux premiers, l'antisémitisme d'extrême droite et celui d'une partie de la gauche radicale ?
L'extrémisme, l'antisémitisme de l'extrême droite, c'est celui qui accuse les juifs d'être apatrides, de ne pas être de vrais français, d'être plus juifs que français. C'est une longue tradition tragique de l'histoire européenne à l'ouest, au centre et à l'est de l'Europe.
Et qui ne serait pas marginal dans l'extrême droite française
et qui n'est pas marginal. L'argument donné dans le manifeste sur le sionisme est vrai, mais me paraît secondaire dans l'histoire. Le premier, c'est historiquement le fait de les considérer comme des anti-français, ce qui est une accusation grave et fausse. Quant à la gauche, Lénine disait « l'antisémitisme est le socialisme des imbéciles ». Bon, il l'a dit, mais il n'a pas fait grand-chose quand même, parce que l'antisémitisme a sévi aussi en Union soviétique, et là c'est dû au fait d'une identification caricaturale du capitalisme et de la population juive.
Si vous permettez, je fais juste une remarque, c'est qu'en plongeant donc dans cette histoire du marche du retour qu'on évoquait avant cette pause musicale, je suis tombé donc sur un discours de Mahmoud Abbas, donc président de l'autorité palestinienne, du 30 avril dernier, dans lequel il a eu des propos, semble-t-il, négationnistes. Voilà, je ne savais pas que Mahmoud Abbas avait régulièrement des propos négationnistes, en tout cas qui ont été désignés comme tels par Benjamin Netanyahou. Et l'ONU a condamné ces propos jugés inacceptables. Et entre autres, il avançait que l'antisémitisme était particulièrement dû au fait que les Juifs, je cite, ont occupé pendant longtemps dans l'histoire européenne une fonction sociale qui était liée à l'usure, à la banque, etc. Preuve que c'est... Voilà, c'est encore court.
Oui. Et l'Iran aussi fait du négationnisme ouvertement, quoi.
Alain Cérizola, sur cet antisémitisme, disons que, pardon, je vous relance juste, il y a aussi derrière cette tribune, posant la question du silence, le souvenir d'un silence médiatique autour de la mort de Sarah Halimi, qui est morte en avril 2017, défenestrée, femme parisienne de 65 ans, et on dit que les médias n'ont pas voulu trop en faire parce qu'ils ne voulaient pas que l'islam soit désigné comme l'ennemi, enfin entre comment dire, comme une des causes peut-être du retour de l'antisémitisme en France.
Il est certain qu'il existe en France un antisémitisme. Vous en avez cité différentes formes. Il y a aussi, je ne sais pas quel terme employer, un antisémitisme un peu culturel. Les Français contre les Juifs sont les riches, etc. Il y a une certaine forme d'antisémitisme. Bon, mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que cette tribune qui a été publiée, et même si je suis complètement d'accord que il y a des régions, et je pense à la Seine-Saint-Denis, j'ai lu où les Juifs sont obligés de fuir la Seine-Saint-Denis parce que ils sont... chassé. Bon, mais je voudrais dire que cette tribune, je la trouve spécialement maladroite parce qu'elle semble établir un lien de causalité directe entre les versets du Coran et le terrorisme. Je pense que ce n'est pas en stigmatisant les textes que l'on arrivera à régler les problèmes. Alors c'est sûr que dans cette tribune, il y a des termes comme épuration ethnique à bas prix, frapper d'obsolescence certains versets du Coran, tout au moins ceux qui appellent au meurtre et au châtiment des juifs, des chrétiens et des incroyants. Les termes sont très durs. Mais je pense qu'il ne faut pas lire, et je ne suis pas naïf bien évidemment, mais il ne faut pas lire le Coran à la lettre. Il faut le remettre tout ça dans son contexte. Alors c'est vrai que l'Église catholique a su faire évoluer avec Vatican II et notamment avec Nostra Aetate son langage, son positionnement par rapport aux Juifs, et que demander aux musulmans de faire évoluer les textes et de modifier leur langage, c'est beaucoup plus difficile parce que, comme vous le savez, il n'existe pas d'organe suprême, et particulièrement en France, où les sunnites sont ultra majoritaires par rapport aux musulmans, et que les sunnites les sunnites n'ont pas d'intermédiaire, n'ont pas de structure qui permette cette réflexion. Donc faire évoluer les textes, frapper d'obsolescence les textes du Coran, ça me paraît une idée totalement irréaliste. Par contre, il faut arriver à...
Il vous semble opportun de poser la question, en tout cas, d'un travail, on va dire, critique à l'égard du Coran?
Oui. C'est sûr que des phrases, celles que je l'ai citées, frapper que des textes qui appellent au meurtre et au châtiment des juifs, des chrétiens et des incroyants, c'est difficile à lire, mais il faut replacer ça dans le contexte où ça a été écrit et le lire par rapport à la réalité culturelle d'aujourd'hui. Voilà. Et que de condamner, que ce manifeste condamne sans ménagement, tout cela me paraît un petit peu fort et pas de nature à faire évoluer les choses.
Bernard Ibal, est-ce que c'est pas, entre guillemets, évidemment, la principale intention de cette tribune, de mettre un coup de pied dans la porte, d'autres, les journalistes utilisent toujours l'expression un pavé dans la mare, mais d'oser regarder l'islam tel qu'il est et de pousser les autorités publiques à travailler à l'existence réelle d'un islam compatible avec les valeurs de la République?
Un bémol quand même, parce que le manifeste fait quand même allusion à d'autres formes d'antisémitisme. Mais bon, il insiste lourdement sur l'antisémitisme islamique, à juste titre d'ailleurs. Hein, je crois que jusqu'à présent, dans la tête des Français, il y avait une immense majorité de musulmans modérés et compatibles avec la République, et une toute petite minorité terroriste djihadiste. Je crois que on peut réviser un peu ce jugement. Il y a une troisième catégorie. C'est la catégorie de ceux qui sont pas du tout terroristes et qui ont pas du tout l'intention de l'être et qui ne soutiennent pas le terrorisme, mais qui en même temps sont historiquement, de génération en génération, devenus nettement antisémites. D'abord à cause du conflit entre Israël et la Palestine, et aussi par le Coran, qui quand même, effectivement, de façon explicite, dit qu'il faut tuer les juifs, les chrétiens et les incroyants. La Bible l'a fait plus ou moins aussi, ça. Hein. Et puis, il n'y a pas que la Bible.
Mais le texte n'a pas le même statut, déjà.
Il y a eu, entre les deux guerres, un chanoine dont le nom m'échappe, mais peu importe, c'est pas la peine de le citer d'ailleurs, et même un évêque, qui ont présidé des associations ouvertement antisémites. Et c'est pas si vieux que ça, c'est entre les deux guerres. Mais c'est vrai, et fort heureusement, Vatican II a mis les choses au point. Et on a mis les choses au point, comme l'a dit, comme vous devez dire, à savoir en expliquant que les textes bibliques étaient dans un contexte particulier. Et les musulmans pourraient faire pareil, à ceci près, outre ce que vous avez dit qui est vrai, mais je ne veux pas répéter, à ceci près que le Coran est considéré comme étant la dictée de Dieu, quoi, la dictée directe de Dieu.
Texte incréé.
Voilà. Alors,
les musulmans.
Et oui, alors, c'est très difficile, dans une théologie qui s'inscrit dans un tel principe, de modifier les interprétations.
D'autant plus, comme je disais, qu'il n'y a pas d'organisation.
Voilà, oui, ça, j'approuvais. J'ai pas répété pour pas faire plus long, mais je suis tout à fait d'accord.
Je citerai pour finir, non pas forcément pour lui donner raison, c'est vrai que ça m'arrive de le citer de temps à autre, Jean-Pierre Denis, directeur de la rédaction du journal La Vie, qui, dans un éditorial, dit aussi la chose suivante, signe des temps, des musulmans eux-mêmes sortent du déni. Dans une autre tribune, plusieurs imams expriment leur compassion avec les crimes antisémites qui ont frappé aveuglément notre pays, et en tête, comme souvent, un imam bordelais, Tarek Oubrou. Actualité, je citerai une dernière chose, j'ai vu que, enfin ça m'a surpris quand même, c'est une autre relance, Angela Merkel ou son gouvernement jugerait assez extrême les effets de l'antisémitisme en France. Alors certes les minorités sont plus importantes en France, les minorités juives et musulmanes, mais on a l'impression que c'est pas un problème quand on passe la frontière. Est-ce que c'est une vue de l'esprit, Bernard Ibal ?
Je crois qu'elle aurait mieux fait de réviser, de tourner la langue cette fois dans sa bouche avant de parler, parce que l'extrême droite antisémite allemande se manifeste ouvertement dans plusieurs manifestations festives qui ont lieu dans toute l'Allemagne, par dizaines. Et que certes, la police encadre et contrôle, certes, est minoritaire, certes, est à l'extrême droite de l'extrême droite élue, parce qu'il y a une extrême droite élue, mais cette extrême droite nazie est encore plus à l'extrême droite. Mais enfin, les manifestations antisémites sont beaucoup plus populaires et admises en Allemagne qu'en France. En revanche, en France, c'est la criminalité individuelle. Et c'est peut-être plus grave la criminalité que la manifestation festive. Mais en même temps, manifestation festive, ça signifie qu'il y a quand même des groupes importants qui n'hésitent plus à porter la croix gammée et à se dire clairement antisémites, quoi.
Dernier sujet qu'on a choisi, donc le discours d'Emmanuel Macron, son intervention devant les évêques de France. C'était donc le 9 avril dernier, grande invitation de l'Église de France aux Bernardins à Paris, où il y avait, on va dire, tout le gratin du catholicisme français. Quand je dis gratin, c'est qu'aussi il y avait un certain nombre de personnes en situation de fragilité, voilà, qui étaient bien présentes. L'Église tenait à leur faire une place d'honneur pour évidemment aussi nourrir le dialogue qui a été engagé à cette occasion. Beaucoup de choses à dire sur cette rencontre. Il y a eu aussi énormément de commentaires. J'en citerai peut-être juste un ou deux. Pour vous lancer, je citerai juste le début du discours du président de la République. Pour nous retrouver ici ce soir, Monseigneur, donc il s'adressait à Monseigneur Pontier, donc président de la Conférence des évêques de France, nous avons, vous et moi, bravé les sceptiques de chaque bord, et si nous l'avons fait, c'est sans doute que nous partageons confusément le sentiment que le lien entre l'Église et l'État s'est abîmé, et qu'il nous importe, à vous comme à moi, de le réparer. Et c'est quasiment comme ça que le président de la République a commencé. Emmanuel Macron, discours qui a fait... hurler certains catholiques voyant là une tentative de récupération ou une grande hypocrisie du président de la République, mais aussi l'extrême gauche, ouais. Jean-Luc Mélenchon, qui a dit la chose suivante: Macron est en plein délire métaphysique insupportable, on attend un président, on entend un sous-curé. Quel a été votre sentiment, Alain Cerisola, en écoutant le président de la République?
Moi, j'ai envie de dire que le président de la République a parlé comme doit parler un président. À savoir, il est président de tous les Français. Hein, et en disant des choses comme l'Église est une réalité sociale qui contribue au bien commun, où l'Église et l'État appartiennent à deux réalités institutionnelles, une réalité sociale contribuant parmi d'autres à la recherche du bien commun, je crois que le président se situe bien dans son rôle. Il n'a pas fait de hiérarchisation entre les apports spirituels et celui d'un humanisme agnostique. Il n'a pas pris position, il a simplement reconnu que l'Église a une richesse et il appelle d'ailleurs dans son discours les catholiques à s'engager davantage en politique, en précisant bien que le pouvoir de décision, c'était pour aux catholiques de l'avoir, qu'il fallait une démarche non injonctive, comme il a dit. Voilà. Donc, je pense que le discours d'Emmanuel Macron resitue bien ce que doit être l'Église catholique, ce qu'est l'Église catholique et qui a été un peu marginalisée dans les années passées. Alors, Je crois qu'il y a eu des réactions imbéciles. Vous avez cité celle de Jean-Luc Mélenchon qui dit que le président parle comme un sous-curé. C'est ridicule de dire ça.
Ça n'a pas été le seul. Hein. J'ai cité la réaction la plus extrême. Mais absolument, je pourrais en citer d'autres. Hein. Benoît Hamon, par exemple. Quel lien entre l'Église et l'État a été abîmé? Est-ce lors du mariage pour tous? S'il doit être réparé? Est-ce lors de la révision des lois de bioéthique sur la PMA? Demande-t-il. Bref.
Non, il est certain que dans ce discours, Emmanuel Macron a pas pris des positions par rapport, vous venez de citer la bioéthique, il n'a pas pris de position par rapport aux migrants, mais il faut lire en même temps le discours de Monseigneur Pontier, qui a bien positionné les problèmes. Emmanuel Macron, dans ce discours, il pouvait pas répondre, prendre position sur les migrants, sur la bioéthique, alors que la phase de consultation était encore en cours et la phase législative n'est pas commencée. Moi, je trouve que ces réactions en disant que c'était un affront à la laïcité de ce qu'a dit Emmanuel Macron, c'est totalement excessif. C'est une mauvaise vision de la laïcité. La laïcité, tout le monde doit se parler et que le pouvoir public, le président de la République parle avec les catholiques, comme il a parlé avec les protestants, comme il a parlé avec les musulmans, comme il a parlé avec les francs-maçons, comme il parle avec tout le monde, ça me paraît tout à fait normal, intéressant et intelligent.
Bernard Ribal, j'ai trouvé un communiqué du Grand Orient de France. Le Grand Orient de France parle de grave entorse au principe républicain de la laïcité et cite cette phrase de Victor Hugo, « L'État chez lui, l'Église chez elle ».
Oui, mais je crois que Emmanuel Macron doit sourire et être quasiment satisfait d'entendre ces critiques qu'il avait à coup sûr prévues, parce que quand on sort une phrase en tête de discours, vous l'avez citée, mais je la recite parce qu'elle vaut le détour quand même, « Réparer le lien abîmé entre l'Église et l'État
». C'est quand, pas rien pour un président de la République de dire ça. Hein.
Quand on connaît
le dire
contexte,
au début du discours.
Quand on connaît le contexte français culturel sur la laïcité, un président de la République, dans l'exercice de ses fonctions, qui dit ça, il savait très bien qu'il allait provoquer. Certes, quand on lit tout le discours, il réaffirme les principes vrais de la laïcité républicaine. Mais la première phrase est quand même, elle attaque, quoi, dans sa forme. Elle attaque les militants du laïcisme. Et même, il y a eu même un député de La République En Marche, député apparenté, mais célèbre, de La République En Marche, Manuel Valls, qui a protesté, mais alors, avec mesure quand même, mais qui a protesté contre ce discours, d'après lui, portant atteinte à la vérité de la laïcité. Moi, je voudrais que...
Qu'est-ce que vous avez relevé d'autre dans ce discours ? Moi, j'ai, peut-être pour vous relancer, j'ai noté deux choses. Le président de la République parle d'un moment de grande fragilité sociale pour la France, et à un autre moment... Il dit « Ce qui grève notre pays, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, ce n'est pas seulement la crise économique, mais c'est le relativisme et c'est même le nihilisme », a-t-il dit.
Oui, et il a, dans le même sens, exactement le même sens que vos citations, il a dit que le catholicisme est un de ces repères qui ne cède pas à l'humeur des temps qui passent. Je crois qu'il a, entre autres, il n'y a pas que ça dans son discours, mais clairement désigner le rôle positif de la religion dans la République, qui est de lutter en quelque sorte contre le relativisme, en tout cas de donner des repères à ceux qui en cherchent. Quoi. C'est très important qu'un président de la République note ces repères, qui ressemblent d'ailleurs à des phrases... du pape François, quoi, sur le rôle de la religion dans les sociétés, en dehors du fait de la foi, hein, le rôle sociologique des religions dans la société. Mais si vous me le permettez, je voudrais juste trois lignes, c'est vite lu trois lignes, hein, et il n'y a pas plus de trois lignes. Lire trois lignes qui sont trois lignes de l'article 18 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de l'ONU de 1948, dont le rapporteur était René Cassin, un franc-maçon. Et voici ce que disent ces trois lignes, il semble qu'elles sont souvent oubliées. « La liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, et écoutez bien maintenant, seul ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte, et l'accomplissement des rites. » Il y a des redondances sur le public, sur l'expression publique de la religion, et Emmanuel Macron a en quelque sorte fait un discours très explicite pour ne pas faire, comme presque tout le monde, renvoyer la religion dans la sphère du privé, mais bien montrer qu'il y avait un engagement des catholiques dans la société qui devait être positif et qui devait être plus actif qu'il ne l'est aujourd'hui.
Alain Cérisola.
Oui.
Est-ce que ça vous a surpris, vous voulez réagir, ou j'ai une question complémentaire, est-ce que ça vous a surpris, entre autres, cette phrase d'Emmanuel Macron sur ce qui grève la France, c'est aussi le relativisme et même le nihilisme. Probablement que c'est ça aussi qui a fait bondir un certain nombre de catholiques.
Oui, moi je suis d'accord avec Emmanuel Macron lorsqu'il dit ça. Il faut affirmer les convictions, il faut dire ce en quoi on croit, et lorsque le président dit que l'Église catholique est une réalité institutionnelle, qui a son mot à dire, qui a quelque chose à dire dans la société, c'est tout à fait important, et il reconnaît la place de l'Église catholique comme il reconnaît la place d'autres institutions. Moi j'ai bien aimé aussi lorsqu'il prend un petit peu de recul. On a beaucoup parlé des racines chrétiennes de l'Europe et tous les débats qu'il y a eu dans le passé. Emmanuel Macron a dit les racines c'est bien, mais ce qui est important c'est la sève, là de dire toute l'apport, toute la richesse, toute la vie que peut apporter l'Église catholique à la nation, c'est tout à fait important. C'est une reconnaissance, et encore une fois on l'a dit, c'est pas pour autant que Emmanuel Macron renie les principes de laïcité comme cela a été dit. Moi je me réjouis de ce discours qui est tout à fait intéressant, même si on pourrait discuter sur ce qu'il n'a pas dit, mais je ne crois pas qu'il pouvait le dire au Bernardin.
Bref, rendez-vous est pris. Certainement que les catholiques vont attendre aussi la restitution des états généraux de la bioéthique, dont on dit qu'ils ont été riches, assez libres, en tout cas dans notre région, contrastés, et voilà, peut-être que, en tout cas, un certain nombre de catholiques attendront de voir comment seront retranscrits ces états généraux pour porter un petit peu plus de crédit aux propos du président de la République, Bernard Ribal.
Ça s'inscrit, le propos que vous avez sur la bioéthique et celui qu'on vient d'avoir sur Macron au Bernardin, ça s'inscrit dans une avalanche macronienne ou macroniste, je ne sais pas comment il faut dire, mais dans une avalanche d'idées nouvelles qui fait que les médias d'un côté et les oppositions de l'autre sont complètement désorientés. Avant même qu'une proposition ait été un peu discutée, voire un peu contestée, il y en a deux, trois autres, quatre autres qui arrivent.
C'est très tactique, oui.
Macron a l'initiative, il a la main tout seul. Les autres courent après, quoi. Alors, ça, des avantages, c'est que ça change un petit peu le ronron républicain qu'on avait, où il fallait 3 ans pour sortir une loi. Mais en même temps, je ne sais pas si la réflexion, la concertation, le débat restent riches et possibles, quoi.
Voilà Emmanuel Macron qui a dit entre autres dans ce discours, l'Église n'est pas tout à fait du monde et n'a pas à l'être, et a espéré que la République allait construire, entre autres avec l'Église catholique, accomplir de grandes choses ensemble. Donc rendez-vous est pris, on aura probablement l'occasion de recommenter ce discours de manière rétrospective, notamment à l'automne prochain. Merci beaucoup d'être venu au micro de Vivante Église, merci à Danielle Cavanis, même si elle nous a quittés un petit peu plus tôt. Rendez-vous est pris pour le mois prochain, merci mille fois. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry, vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.